Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Cellule. Aujourd'hui, un podcast consacré à Sens. Pour en parler, j'ai avec moi les parents de Sens, en tout cas les créateurs principaux.
Tu peux le dire.
Tout d'abord, Romaric. Salut Romaric.
Salut Fabien.
Ça va?
Oui.
Et avec moi également Fly. Salut Fly.
Salut.
On a
également un petit podcasteur.
Soren. Salut Soren. Un mot peut-être.
il est en train
de prendre son biberon. Et donc c'est moi qui ai proposé ce podcast sur le thème de la parentalité. C'est pour ça également qu'on a le petit Soren avec nous. Et j'ai voulu proposer ce podcast parce qu'en fait, en lisant Sens, je me suis dit mince, mais tout. Les PNJ principaux et même une bonne partie des PJ ont des trucs soit avec leurs parents, soit avec leurs enfants. Alors on va pas spoiler sur Sens Cosmo, mais c'est promis que dans Sens Cosmo, il y a aussi des trucs
sur la parentalité.
Ouais. Mais si on prend déjà Renaissance, Mort et Néant. Solipsis, ses parents ont été tués par son
mentor. Ouais.
Son fils est lui-même un immortel, puisque c'est Wilfried, si je ne me trompe.
Et lui-même, Wilfried, a des problèmes avec ses parents, puisqu'il a été abandonné par ses parents au cours de la guerre des immortels. Parce que Longfinger l'abandonne chez les Unshores. Donc il devient fils adoptif et le découvre plus tard.
D'accord, ça m'avait échappé.
Ah ouais, non, c'est lui aussi a des problèmes de parentalité et lui-même d'ailleurs deviendra parent et verra ses enfants mourir sous ses yeux à la Nouvelle-York.
Très intéressant d'ailleurs parce que c'est vraiment une problématique un peu vampirique quelque part pour Wilfried Unshores, la parentalité.
On pourra faire un podcast tout entier sur Wilfried peut-être lorsque le jeu sera un peu plus avancé. Mais voilà, lui aussi, il a des problèmes avec la parentalité.
Finn Longfinger, sa mère voulait une fille, elle l'a appelée Céline, me semble-t-il, et en fait, pas de bol, c'était un garçon.
Oui.
Bon, lui aussi, il a des problèmes
avec la parentalité. Et il tue sa mère en
couche.
Oh la vache.
En venant au monde.
Putain. Et donc, c'est aussi le père de Wilfried, il y a aussi cette problématique-là de ce côté. Les frères Stentor.
Et puis au-delà de ça, même Finn Longfinger tue techniquement son père deux fois.
Absolument.
Attends. Alors c'est ça, c'est ce qui est fabuleux.
C'est tu le.
Moi je connais.
Elle était morte et vous l'avez tuée.
il faut pas trop mettre tes mains autour du micro, sinon ça fait une voix un petit peu nasillarde.
Excuse-moi. Ouais. Oui, c'est ça ce qui est fabuleux avec Sens, c'est que moi je connais Sens pour l'avoir lu, mais pas en détail. Donc il tue deux fois ses parents.
Ouais. Son père, oui, une fois en vrai, une fois quand il est en quadrillade mort, son père.
Voilà, absolument. Greg Costa est tué.
Ah oui, exact. Ouais. Maintenant, ça me revient.
Alors, celui qu'il croit être son père, parce qu'en réalité, ce n'est pas son véritable père.
Putain. Voilà. Comme...
Je suis ton père, Céline. Non, mais
oui.
Pas vraiment.
les frères Stentor, donc Miphos et
Chrysaor,
voilà. Donc, ils sont tous les deux les fils de la comtesse
Adeline
Kadria.
Ouais. Oui, là, dans Néant, il y a quelque chose.
Il y en a un qui est le fils de Bran Oberon. Donc, c'est
Chrysaor.
Et il y en a un autre qui est le fils de
Stentor.
Stentor, donc le mari de la comtesse.
Le mari légitime de la
comtesse. Miphos aura aussi des histoires avec ses enfants, mais on n'en parle pas trop. Si on prend Néant soi-même, on prend déjà Classis, ce brave Classis, ses parents c'est des ordinateurs, donc question
parentalité, il est
servi. Azilis, on sait rien de ses parents.
On ne sait absolument rien d'Azilis.
De ses parents, ok. Non. Mais la princesse Azilis, dans Sens Néant, va avoir des bébés absolument hideux du point de vue d'un sétantra, c'est-à-dire qu'elle va tomber enceinte.
On va peut-être pas trop spoiler là-dessus, mais elle a également des problèmes avec son père, puisque si tu te souviens bien, Sens Néant, dès le départ, il est dit qu'elle a du mal à assumer le fait d'être la fille d'être sétantra, parce que les sétantriens attendent d'elle ce que son père donnait au peuple. Mmh. Or, elle en semble incapable. Et donc, elle a du mal à rentrer dans ce costume de princesse des Septentriens. Elle a du mal à prendre la succession de son père. Elle vit dans l'ombre de son père, si je
sais. Si, alors, un rapide éventail des situations. Pour l'instant, de ce que j'entends, dans ce sens, s'il y a le problème de la parentalité, à savoir, c'est difficile d'être le fils de quelqu'un de connu. C'est difficile d'avoir sur les épaules les responsabilités, en gros, d'une famille. C'est difficile d'être abandonné, on s'en doute bien. Il y a la problématique de l'abandon, la problématique de la redécouverte des véritables parents, avec ce que ça suppose de redécouvrir des valeurs, le problème des valeurs aussi.
Il y a la problématique du genre, même si elle n'est pas tant abordée que ça avec le coup de Finlongfinger, où sa mère voulait une fille, en fait c'est un garçon. En dehors du fait que c'est pas tant développé que ça dans le sens sens mort, je trouve que c'est une vraie problématique.
Il y a aussi le fait de vouloir être parent.
Oui, exact.
Le fait de tout faire, parce que même dans Néant, il y a souvent, moi je sais qu'on a souvent fait des scénars où en gros il y a deux Septentras qui voudraient devenir parents, mais qui n'y arrivent pas.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est être parent? Qu'est-ce que c'est avoir un enfant et de vouloir créer un enfant à deux? Enfin, il y a
d'une façon générale, la problématique des liens dans Sens Néant amène cette problématique de la parentalité.
Et alors c'est pas que les PNJ, parce que les PJ aussi ont droit à leur dose. Les Bugs, leurs parents ont été tués à la Nouvelle-York. Tous ensemble au même moment.
Oui. Par quelqu'un de proche.
par quelqu'un de proche. Donc, assez. Pas de bol, quoi. Mm. Et les golems, ils croyaient être des enfants de quelqu'un. En fait, c'est des espèces de.
On peut dire de golems, de créatures.
Ouais, voilà, de monstres à qui on a donné l'apparence de cet entrain, mais en réalité, c'est issu d'un espèce de déchet acide absolument ignoble. Ouais. Voilà, on spoil du néant, mais ça va.
Bon, c'est pas. En plus, je pense que c'est le genre de spoiler.
Néant est sorti, donc.
En dehors du. Vrai, puis même, je pense que c'est le genre de spoil en dehors du contexte de néant qui n'a pas grand sens. Les gens qui entendent ça seront juste curieux s'ils n'ont pas lu Néant, et les gens qui ont lu Néant nous comprendront. Donc je pense que c'est pas du spoil grave, tu vois.
Donc voilà, je crois que quand je dis que dans Sens la parentalité pose problème, je crois que je suis assez sûr sur cette affirmation là, quoi. Et donc je voulais vous interroger sur ce qui vous a amené à amener toutes ces problématiques. Je pose pas la question de manière totalement innocente parce que je connais un peu Romaric avec le temps. Donc je sais que ça tombe pas du ciel.
Ça ne vient pas du néant.
Voilà, ça ne vient pas.
Bah déjà, il y a un truc qui me fait rire moi, mais voilà, c'est tu es un fan des Chevaliers du Zodiaque.
Oui.
Et
absolument.
Bizarrement, les Bugs sont comme les chevaliers d'Athéna, ils sont tous orphelins.
Alors pourquoi ? Alors là, on peut commencer déjà une raison narrative. Les orphelins, c'est très très pratique du point de vue narratif parce que ça n'a pas d'attache et donc ça peut partir facilement à l'aventure et dans des causes, on va dire. Allez, j'allais dire social. C'est-à-dire que l'orphelin n'a pas de repère émotionnel, n'a pas un parent qui lui a dit c'est bien ça. Donc du coup, ils sont aisément manipulables par une fondation, par une société, par une association. Solipsis et donc quelque part la résistance sont des manipulateurs, des Bugs dans la mesure où ils prennent de jeunes orphelins sans principe encore établi et vont leur attribuer les fondements de la résistance. Et alors il y a deux choses. Premièrement, c'est pratique parce que ça permet de partir à l'aventure.
Donc c'est toi comme meneur de jeu qui leur attribue leurs parents, c'est ça ?
Exactement, c'est ça. Et du coup, ça permet de partir sur des présupposés que les joueurs vont pouvoir ensuite discuter, remettre en question. Et en fait, les bases établies ne sont pas certaines. Si t'as des parents, tu sais pourquoi tu fais les choses. Parce que les parents sont un socle fondateur. Mmh. Mais si tu es orphelin, et si c'est une organisation qui finalement t'a attribué tes valeurs, toutes tes valeurs peuvent potentiellement être remises en question par des discussions politiques, etc.
Bon, c'est plus précisément que toi, comme meneur de jeu, tu décides quelles sont les valeurs que leurs parents leur ont inculquées.
Exactement. Enfin,
leurs parents, les personnes qui les ont élevées leur ont inculquées.
Mais alors que pour mieux les discuter par la suite.
Voilà.
Bien sûr. C'est d'ailleurs ce qui pose problème avec le personnage de Solipsis finalement. C'est pour ça que les gens se disent ah oui, mais est-ce que c'est pas une grande manipulatrice ? Oui, elle l'est effectivement. Mais elle essaye de laisser un maximum de liberté ensuite au personnage pour remettre en question les valeurs qu'elle a elle-même fondées,
établies,
etc. Enfin, c'est la vie.
En même temps, est-ce que c'est une si grande manipulatrice que ça ? Je veux dire, les Bugs, ils ont plus de parents. ils ont des pouvoirs. Enfin, quand elle les recueille, au final, elle devient leur mère de substitution. Si elle leur donne pas de valeur, c'est une mauvaise mère.
Alors ça c'est très important. C'est-à-dire que dans les Chevaliers du Zodiac comme dans Sens, la véritable maman, c'est Solipsis et c'est Athéna. C'est-à-dire qu'il y a le côté on défend, on protège notre mère, nos racines, etc. Et les véritables parents des Bugs, ce sont Finnonfinger et Solipsis. D'où d'ailleurs le fait que Wilfried, enfin au sens symbolique, hein, c'est pas leurs véritables parents au sens génétique, mais au sens symbolique, c'est eux. C'est-à-dire que c'est l'esprit de la résistance, Finnonfinger et Solipsis. Et c'est pas un hasard si finalement Wilfried considère dès le départ les Bugs comme ses frères, comme si il y avait quelque chose qui les liait. C'est parce que, étant orphelin, en fait, ils se sont liés comme ça à des grandes figures symboliques. Mmh. Et donc déjà,
et
ça c'est
une
première base.
En même temps, il y a aussi autre chose qui les lie, c'est-à-dire que même si Solipsis leur a donné des valeurs, elle a été techniquement une mauvaise mère. Voilà. Parce qu'elle s'est pas vraiment occupée d'eux, elle leur a pas donné vraiment de l'amour, elle leur a juste donné des choses à faire.
Est-ce que quelque part, Solipsis ne se rattrape pas du manque d'amour? De l'amour qu'elle n'a pas donné à Wilfried en s'occupant des Bugs. Moi, je pense qu'elle a une figure maternelle envers les Bugs exprès parce que.
C'est fou.
Mais.
Enfin, moi, je trouve ça très fort comme réflexion. J'avais jamais vu les choses comme ça, mais.
Moi, je pense que c'est ça.
Ça me touche beaucoup.
Le nerf de la guerre. Mais.
Le nerf de la mer.
Le nerf de la mer et de.
Mais du coup, est-ce que Wilfried n'en veut pas non plus un petit peu aux Bugs quelque part pour.
Parce qu'eux, ils ont eu l'attention que lui,
il n'aurait pas eu.
Aimé avoir. Donc voilà, c'est un podcast où on a un cinquième intervenant qui est le docteur Sigmund Freud qui nous vient directement de Vienne. Alors, docteur.
C'est un problème de zizi.
Können Sie uns ein bisschen über Sens sprechen, Jörg? Ja, also, wir hatten gedacht, dass...
Pas trop d'allemand, pas trop d'allemand.
Tu es les auditeurs.
J'ai ri, moi, à la blague de l'allemand.
J'ai ri à la blague d'Aristote sur le surrelatif.
Oui, Nicolas.
Bon, allez, on peut peut-être revenir. Mais revenons. Je pense que... Donc ça, c'est une justification narrative. Puis il y en a plein des justifications narratives comme ça. Mais je crois que derrière ton podcast,
tu peux nous parler aussi des...
En tant qu'auteur, je pense.
Alors oui, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que moi, je te pose cette question en tant qu'auteur, dans le sens où, en fait, c'est une réflexion qu'on avait menée avec Fred. C'est comme ça que j'y suis arrivé à ça. C'est une réflexion avec Fred. Fred me disait, quand tu regardes l'œuvre de n'importe quel grand intellectuel, artiste et autres, tu te rends compte qu'il y a souvent des thèmes qui reviennent. Bon, ça c'est pas étonnant. Et on se disait, est-ce qu'on peut penser la même chose en jeu de rôle? Et on regardait ce qu'a fait Fred, on se disait, ben oui, chez Fred, il y a le thème de la maladie et de la guérison, il y a le thème du choix moral mais surtout la maladie et de la guérison. Chez moi, il y a certainement des thèmes sur la question de la transcendance, des questions politiques aussi qui me touchent très personnellement.
Bientôt sur les questions de genre aussi. Quand
sur
on
les
voit
questions
ton
de
travail.
Genre aussi, parce que voilà, je travaille avec ce que je pense, ce que je suis, avec mon boulot aussi. Et ensuite, on a pensé à ton travail. Enfin, j'ai pensé à ton travail. Je me suis dit, merde, c'est quoi là? Alors oui, ok, il y a Wittgenstein, ça c'est l'évident. Et puis ensuite, je suis tombé sur la parentalité. Bon,
mais quelque part,
Rome,
même sens c'est... en lui-même. Le côté, les gens qui croient en Dieu cherchent un père supérieur.
Bon, ça c'est.
Mais c'est évident.
Attends, cela dit sens. Cela dit sens.
C'est important
Romaric.
Parce que toi t'es métaphysicien, donc quelque part c'est aussi ce que tu recherches.
Le fait que je sois déiste montre l'attachement que j'ai au père, à la parentalité. Ne serait-ce que ça.
Et
le fait qu'il y a un dieu dans sens.
Okay. Enfin, cela dit, oui, je t'interroge en tant qu'auteur, mais je trouve que c'est intéressant, à mon avis, pour les auditeurs aussi, que tu parles, et c'est intéressant pour, que tu parles aussi des raisons narratives en jeu qui font que tu as choisi de traiter particulièrement la question de la parentalité.
Je pense que la parentalité aussi, mine de rien, un sens est un jeu qui traite de la métaphysique. De la recherche des origines.
Oui,
et ne pas mettre cette question-là au cœur de la vie des Bugs amènerait certainement moins de questionnements.
Absolument.
Parce que quand on sait d'où on vient physiquement, on est moins amené à se demander d'où on vient métaphysiquement.
Ah, c'est bien.
La question des origines, c'est effectivement une question qui est
très... C'est l'origine de la philosophie.
Je suis d'accord avec Fly.
je suis d'accord avec Fly.
Non, mais ça, les roupettes.
La poire.
Oui, mais j'avais envie de dire les roupettes.
Avec les références, là. On va perdre tous nos éditeurs. Déjà qu'on parle de métaphysique.
Non, mais effectivement, c'est vraiment ce qu'a dit Fly est fondateur. Le fait que, effectivement, si tu connais tes origines, tu te poses beaucoup moins de questions sur tes origines dans tous les sens du terme. À la fois métaphysique, physique, génétique, etc. Et surtout sur les valeurs, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de père, quand tu n'as pas de parents, tu es perdu du point de vue des valeurs. Parce que quand même, et on peut tous en témoigner autour de cette table, on a tous les valeurs, plus ou moins, de nos parents. Après, on les a discutées,
quand tu nais, tu te poses pas de questions, tu suis les valeurs de tes parents. Enfin, voilà. Et puis quand t'arrives à le moment du questionnement de l'adolescence, là, on remet en question, mais on sait d'où on vient. On a un socle qui nous a permis de penser, de pouvoir remettre certaines choses en question. Mmh. Alors que, sans personne pour t'élever, comment fais-tu? Ton système de valeurs est forcément biaisé, tu n'auras rien à remettre en cause, puisque du coup, c'est toi qui te seras créé ton... Enfin, c'est déjà plus compliqué, quoi.
Alors, à partir du moment où tu es rentré dans cette logique pour les PJ, forcément, étant donné que dans ce sens, les PNJ sont des allégories et des personnages auxquels s'identifier, tu vas forcément devoir expliquer quelle est l'origine parentale de chacun de tes personnages. Tu vois ce que je veux dire? C'est une fois que tu es rentré dans cette logique avec les joueurs, du coup, par effet de miroir, les PNJ qui sont des joueurs en fait potentiels, on a l'impression que Miphos, Solipsis, Finonfinger, ce sont des gens qui ont une histoire autour de 520, tout ça avec les runes, qui sont proches de celles que pourrait avoir une table de jeu de rôle en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, il y a une espèce de parallèle comme ça qui se crée. Mais quand on prend par exemple Naruto ou les Chevaliers du Zodiac, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans Naruto, les grands méchants sont exactement comme les héros, ils sont eux aussi, ils ont été pétris comme ça par une histoire et fonction de ce que les héros sont, les méchants sont chose.
Dans le podcast sur les runes, les runes sont-elles obligatoires? Je me rappelle d'une remarque que je crois que c'est moi qui l'avais faite où j'avais dit en gros que les runes, donc Solipsis, etc.,
les immortels avaient
un gros avantage, c'est-à-dire que le PJ pouvait s'identifier à eux pour essayer de créer une histoire pour ce similaire en fait. Et je pense que le fait que les immortels s'interrogent sur leurs origines et leur parentalité fait que les bugs par miroir vont être obligés de faire la même chose au final, puisque c'est si on s'identifie à eux, on a envie de créer le même genre d'histoire, donc quelque chose où on recherche de la métaphysique, on essaie de comprendre ce qui se passe tout en blastant des méchants.
Est-ce qu'on pourrait pas dire, là je suis un peu mon animateur, est-ce qu'on pourrait pas dire que si on fait une espèce de psychanalyse de sens, que d'une certaine manière le lien entre les enfants et le parent, c'est le lien qui est entre les joueurs et le meneur.
Absolument.
Au sens où il y a un questionnement de qui est le meneur.
Absolument. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Alors c'est là-dedans que je voulais partir quand je te disais que mon déisme en fait. Le fait que je sois déiste, c'est-à-dire que je crois en l'existence d'un dieu, mais qui n'est pas révélé, etc.
Qui n'est pas personnel, qui n'est pas incarné. Voltaire, je crois, non?
Je sais plus. Là,
okay. Qui n'est pas incarné, d'accord.
Voilà, ouais. Qui n'est pas incarné dans aucune religion révélée. C'est pour ça que je crois en Dieu, mais je ne crois pas en l'église, par exemple. Je ne crois pas en une église, en règle générale. Cette vision métaphysique que j'ai rebondit forcément dans mes univers, parce que c'est quelque chose de structurant chez moi. Et comme le dit Wittgenstein, le monde réel et c'est-à-dire tel que je l'imagine réel et le monde imaginaire ont toujours une structure en commune. Et cette structure-là, on la retrouve. Effectivement, le dieu déiste devient le meneur, d'accord, et je lui fais porter en fait au meneur les mêmes propriétés que j'attribue au déiste, à savoir créateur du monde et aussi parent du monde en fait, auteur du monde en fait, pour être très précis. Mais l'auteur, c'est le parent. Enfin, hein, il me semble.
Pas tout à fait. Vous n'êtes pas les auteurs de ce Soren là.
Non. Oui, c'est vrai.
La différence entre un auteur et un parent, c'est que un parent, en tout cas dans ma vision de l'éducation, du rapport à l'enfant, essaye de rendre l'enfant autonome. Tu vois. Alors peut-être que, en tout cas de la même. on s'interrompt un peu parce qu'on a justement des problèmes
De Soren.
De biberon et de hockey.
Mais non, mais.
C'est bon.
Je suis d'accord avec toi, mais le but d'un auteur de jeu de rôle n'est-il pas de rendre son œuvre autonome? Tout est si autonome.
Ouais, moi, enfant. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Hier, on a eu une discussion avec Fabien et Alice dans la voiture où j'expliquais qu'en gros, là, j'allais laisser en gros mon fils un peu chez ses grands-parents et tout, parce que même si ça me faisait mal, il était temps que je coupe un peu le cordon, y compris pour moi. Et parce que c'est tout bête, mais on crée des enfants, non pas pour les avoir pour nous, mais pour les rendre autonomes et en faire des personnages, des personnes. Et je pense que dans le jeu de rôle de Rome, c'est là. Même chose, c'est-à-dire qu'au début, on fait attention à nos petits bugs, ils n'ont pas tant de possibilités de liberté que ça.
À nos petits joueurs aussi.
Voilà. Et au fur et à mesure, ils ont de plus en plus de liberté dans la création de l'histoire.
Parce que plus tu connais le... Pardon, excuse-moi Fabien.
Je voulais juste ajouter un truc, c'est que à nouveau, je suis d'accord avec profondément d'accord avec le Fly sur sa vision de l'éducation. Là, je sens un petit peu mais puisque le podcast me permet de toucher des gens, je trouve... Effectivement, très fort cette vision de l'éducation, disant on crée des enfants pour les rendre autonomes vis-à-vis de nous-mêmes, parce que justement ça c'est voir l'enfant comme un but en soi et pas comme comme un moyen pour atteindre d'autres trucs, genre se consoler, trouver un sens à sa vie.
Et du coup, c'est important qu'il rencontre et qu'il parle avec un maximum de personnes. Donc nous, on est content aussi d'avoir des gens chez nous, parce que du coup, il va être confronté à beaucoup d'autres discours par rapport aux nôtres, donc il va pouvoir se construire beaucoup plus facilement.
Voilà. On ne crée pas un enfant pour porter des valeurs dans le futur.
Dans le sens, il y a exact. Au départ, l'enfant est totalement élevé par ses parents. Tu vois, il est totalement influencé par eux. Il est totalement sous leur coupe. D'accord.
Le meneur l'accompagne partout. Il le tient par la main.
À l'adolescence, il y a une forme de révolte où on a l'impression qu'on peut s'en passer, etc. Et puis ensuite, il y a un retour en fait aux valeurs des parents, et puis là cette fois-ci une discussion vraiment, plus un rejet uniquement ou une résistance. Ouais. Et vraiment, quand on suit le cheminement de sens, c'est exactement le même. Et c'est ça qui m'intéressait. Et par exemple, je voulais dire aussi que plus tu connais le monde, c'est-à-dire plus tu parce que le but du meneur au départ dans Sens Renaissance, c'est d'en foutre plein la gueule en termes de monde, d'inculquer finalement le monde à ses joueurs. Et plus tu connais le monde, plus tu connais les contraintes qui pèsent sur toi, et plus tu vas pouvoir jouer avec au sens du jeu mécanique, comme aimes tant le rappeler Fabien dans les podcasts. C'est-à-dire l'idée que le jeu de rôle, c'est un jeu au sens mécanique, comme un jeu entre deux pièces d'une machinerie.
Voilà, c'est
l'exploration des fonctionnalités de la machine et des possibilités laissées par le système.
Dans un ensemble de contraintes.
Et ça, tu vois, au départ, dans Sens, vu que on crée dans un canon esthétique fort, enfin, on est obligé de créer dans le canon de Sens. Au départ, c'est la phase où on apprend le canon, un petit peu comme l'enfant à qui on éduque la socialisation.
Voilà,
Et puis au fur et à mesure, tac, dans Sens Mort, on commence à pouvoir se servir de cette liberté, mais on est encore limité parce qu'on est encore dans une bulle, d'accord? C'est l'adolescence.
Ouais.
Et puis dans Sens Cosmo,
L'adolescence, c'est presque sans néant d'une certaine manière, parce que c'est là que ça pète. Tu te souviens de notre crise d'adolescence quand tu avais fait Christophe Fred
oui,
et moi?
Oui, c'est vrai.
Changer l'histoire.
Non, vraiment, sans néant. Sens néant, c'est la reprise en compte des liens. Donc justement, c'est à mon avis, c'est le moment où tu te reprends justement sur l'adolescence. Mais sens néant, c'est effectivement, tu as raison. C'est le moment où on tue un père symbolique.
Ah oui,
c'est-à-dire on tue un maître de jeu. Ouais. Quelque part.
Donc, et puis on tue Classis et...
Voilà. Trop spoilé.
Ah bah...
Mais non,
sens néant, on a le droit de spoiler.
Oui, mais bon, c'est au cas où...
Ah oui, d'accord. Okay.
Bon, là, vraiment... mais vous connaissez bien, bon, tant pis.
De toute façon, néant est sorti, donc
oui,
si on peut pas en parler dans les podcasts de Sens, qui sont pour les mêmes
gens... Déjà, on peut pas spoiler Cosmo. Cosmo aussi, il y a des trucs à dire, hein, sur la parentalité.
Tu vois, cette idée de plus on connaît son monde et plus on peut jouer dedans.
Tout à fait.
C'est vachement important.
L'éducation donne de la liberté.
Absolument.
Dans le sens où tu peux explorer un plus grand ensemble des, comment dit Wittgenstein,
Possibilités combinatoires.
Voilà, des possibilités combinatoires. Hein, pour le moment, on explore surtout les possibilités combinatoires du biberon. Hein.
Non, il y a aussi dormir. Hein, qui
ouais, les possibilités combinatoires de la couche.
Là, il pionce ou quoi?
Ah ouais, l'argent.
Alors, l'autre point essentiel du point de vue narratif, pourquoi est-ce que mes persos n'ont pas de parents, c'est que pour moi, un bon personnage, si on veut que les auditeurs, que les lecteurs s'intéressent à lui, il faut que ce soit un personnage qui souffre. J'entends très souvent me dire, Fred, le héros d'une fiction, c'est celui qui souffre le plus.
Enfin, pas systématiquement, mais c'est vrai que si tu regardes, moi je me souviens que dans Bip Bip et le Coyote, je trouve que Bip Bip et le Coyote, c'est un Tex Avery. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc il y a, vous savez, le coyote qui court après le bip bip pour le bouffer, et le coyote court toujours à la même vitesse que bip bip, mais il arrive jamais à le rattraper.
Et tout le monde préfère Coyote, c'est le plus
et
drôle.
Voilà. Ah oui. Et c'est une tragédie en fait. Quand je regardais ça quand j'étais gamin, moi ça me rendait triste, mais incroyablement triste, parce que éternellement le coyote il crèvera de faim et il se fera mal dans ses propres pièges.
Alors justement, tu m'avais parlé de cet exemple-là. J'ai demandé à des enfants, j'ai demandé à Gwendal et Lorelai de me dire qui était le héros dans Bip Bip et le Coyote, et ils m'ont tous répondu Bip Bip.
Ah ouais.
Alors c'est
et parce que le,
parce
quand
que
t'es enfant,
s'identifie à lui.
Quand t'es enfant, en fait, tu t'identifies à celui qui gagne.
Ouais, exactement.
Parce qu'en fait, les enfants ont énormément l'esprit de compétition.
Exactement. Ouais, c'est.
Comme du coup, ils ont l'esprit de compétition, ils s'identifient à celui qui gagne. Ouais. Quand on passe à l'adolescence, on peut beaucoup plus s'identifier à des héros de tragédie. Parce que du coup, c'est un peu le moment où on est en révolte, etc. Et la révolte est forcément dans la douleur, puisque c'est une révolte.
C'est vrai.
Et du coup, on se met à être beaucoup plus sensible à des héros tragiques, à des héros qui souffrent. Mmh. Et c'est le passage à l'âge adulte. On préfère les héros qui souffrent. Et c'est une vraie différence avec l'enfance. Hein.
Bon, voilà, après, chacun a ses préférences vis-à-vis des héros. Mais
on fera une théorie du développement de l'adolescent à partir de Tex Avery. Il est dans sa période Tom et Jerry. Tom et Jerry, c'est Anna Barbera, c'est pas.
Mais en tout cas, voilà, le fait est que moi, je voulais des personnages qui souffrent un minimum pour expliquer certains comportements, parce que quand même, il y a des fous dans ce sens. La plupart des personnages sont complètement cinglés. Enfin, il me semble que des gens comme Solipsis, c'est des gens qui sont ivres de. Enfin, bon, c'est des fous, quoi.
C'est-à-dire, il faut aussi voir ce qu'ils ont.
C'est un fou.
Il faut aussi voir ce qu'ils ont sur les épaules quand t'es.
Voilà, c'est ça.
Quand t'es immortel et que t'es le plus grand génie de ta génération, ben nécessairement tu. Ouais, genre c'est quelque chose, tu vois.
Ah mince, vous verriez sa tête, elle a gonflé d'un seul coup, elle a explosé son chapeau.
Putain, j'assume plus mes podcasts. Il y a les podcasts qu'on fait trop tôt et trop tard, et il y a les podcasts qu'on fait trop tôt. Si c'est un podcast qu'on fait trop tôt, je suis pas encore assez réveillé, je raconte n'importe quoi.
Si, c'est cool. Les auditeurs seront contents de te découvrir comme ça, Fabien, c'est certain. J'essaie de reprendre le fil de ce que je voulais
dire. Bon, excuse-moi.
C'est que un point essentiel, c'est que comme je veux des personnages qui souffrent, il faut les faire souffrir quelque part. Et moi, j'ai des amis, j'ai des parents, mais je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de frères, je suis fils unique. Donc, je ne connais pas les problématiques liées à la fraternité. Et donc, du coup, ça fait que si je veux faire une histoire un peu tragique à mes personnages, pour que ça puisse me toucher, pour que je puisse écrire le plus sincèrement possible sur la chose, eh bien, il faut que je connaisse le sentiment. Et le problème, c'est ça, c'est que je n'ai pas de frère, autant j'ai une mère qui est décédée très jeune. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'écrire sur des personnages qui ont perdu leurs parents ou qui ont des problèmes avec leurs parents que des gens qui ont des problèmes avec leurs frères, par exemple. Et tu vois, donc du coup, je me retrouve un petit peu piégé par mon propre vécu, enfermé dans une vision de la souffrance qui m'est propre. Et du coup, voilà, je pense que ça explique aussi beaucoup pourquoi les problématiques de parentalité sont les seules, tu vois. Parce que si j'avais connu un frère, le décès d'un frère ou des problèmes avec un frère ou une sœur.
Ou même des compétitions entre frères et sœurs.
Des compétitions entre frères et sœurs, etc. Je comprendrais mieux et je pourrais éventuellement exprimer cela mieux. Moi j'ai pas eu de frères jumeaux comme Fly, j'ai pas eu
Fly.
Oui, j'ai eu un frère jumeau.
Je sais pas ce que c'est.
Un petit mot sur ton frère jumeau.
Mais tu vois, par exemple, toi. Non, mais je prends un exemple.
Ah, parce que c'est
dans
vrai
les livres
souvent,
de Fly, les livres de Flavie, il y a toujours des problématiques par rapport aux frères. Et pourquoi? Parce que Flavie, dans sa famille, c'est très important. Le grand frère est très présent. Il a clairement une influence sur les deux petits. Ils ont des jumeaux. Enfin, ce sont des jumeaux derrière. Donc, il y a plein de problématiques, si tu veux, de fraternité.
Ouais, dans ce que j'écris, en effet, c'est toujours le truc le plus présent. C'est généralement le socle. En fait, dans mes livres, les parents quelque part représentent cette discipline qui va empêcher les frères et les sœurs de développer tout un monde imaginaire qui pourrait les exclure du monde.
Donc là, il y a aussi le vécu.
Mais bon, c'est parce que quelque part, on a, avec mes frères, c'était exactement ça. Hein. Mmh. S'il y avait pas eu quelqu'un pour dire, eh oh, la boîte à imagination, ça se calme 5 minutes.
Vous seriez en train d'inventer votre propre langage.
Ouais, on aurait pu s'exclure du monde carrément.
Je connais des gens qui ont des familles qui ont inventé leur propre langage comme ça.
Et David, mon frère jumeau et moi, en fait, c'était un peu ça. Quand on a les mêmes amis, il sort avec ma meilleure amie, donc voilà. On a connu notre groupe d'amis, en gros, on était, quand on voulait jouer à des jeux ou des trucs comme ça, on avait nos propres langages, mais parce que quand t'es jumeaux, en plus David et moi on était des jumeaux qui s'entendent, enfin on s'entend hyper bien, on s'est toujours hyper bien entendu, mais on s'est un peu exclus du monde quand on était petits, on jouait que tous les deux, on s'est inventé des mots et des choses, par exemple je le regardais, je faisais poulou et on savait tous les deux ce que ça voulait dire et il me répondait en faisant pépap.
D'accord.
Et voilà, enfin c'était ben voilà, c'est normal je pense. Et du coup, moi quand j'ai joué à Sens, j'avais des problématiques, alors pas avec Lina, mais avec d'autres persos, des problématiques de frères et de sœurs.
D'accord.
Quand tu as maîtrisé Sens, oui. Le premier scénario de Sens, vous pouvez en trouver les origines dans Sens Mort, c'est le scénario de Julio et Julia. Alors Julio et Julia, c'est des personnages que j'avais créés. Toi, tu as amélioré le scénario en leur mettant des problématiques de fraternité qui n'étaient pas à la base. Parce qu'il faut savoir que Flavie est l'une des écrivains de Sens Mort. C'est elle qui a écrit tous les fragments. Le scénario de Julio et Julia est entièrement inspiré de son imaginaire parce que c'est elle qui nous l'a fait jouer tel qu'il est écrit dans la base. Ce qui était meilleur que le mien. Alors du coup, je lui ai piqué son idée. Et on a dû, si on avait été honnête, on aurait signé Romaric et Flavie, Sens Mort, parce qu'elle a quand même écrit une bonne partie des fragments et tout ça. Mais le truc, c'est que ça ne collait plus du coup à certaines problématiques qui viendront après liées aux commentateurs, etc. Donc d'accord. On ne peut pas signer des deux noms. Mais voilà, ça, c'est clair et net.
Et clairement, le principe de Julio et Julia avec les jumeaux et la sœur qui essaie de réveiller son frère, etc., c'est des choses qui a pu nous arriver à mon frère et à moi, à mon frère jumeau et à moi. C'est l'autre est en train de faire une connerie, je fais comment pour l'en empêcher ? Mais dans les deux sens, quoi. Moi, quand je faisais une connerie, David arrivait, c'était le sauveur. Et l'un dans l'autre sens aussi, il faisait une connerie et fallait aller le chercher, quoi. Donc, c'est évidemment des choses qui me touchent. Donc, c'est présent dans mes écrits.
Voilà.
Rome, tu nous parlais de ta maman tout à l'heure.
Ouais.
Tu m'arrêteras si tu me permets d'en parler aussi. Je sais.
Ah non, alors là, je veux parler de tout. Hein.
D'accord. Je sais aussi que de ce que je connais de toi, t'as aussi une problématique vis-à-vis de ton père sur la reconnaissance.
Absolument.
Absolument.
C'est le regard.
Les attentes.
Tout à fait. Le regard de mes parents est très très important pour moi. C'est-à-dire que si demain mon père ne m'assume plus, je changerai de personnalité et de personne. Je préférerais changer totalement qui je suis plutôt que de ne plus plaire à mon père.
D'accord.
Par exemple, tu vois, je le dis clairement. Je suis le jouet de vraiment le fruit, le jouet de mes parents. Peut-être un peu trop, d'accord. Mais j'en ai conscience aussi, donc je pourrais peut-être résister un peu.
Oui, voilà. Connaissant, tu discutes. Enfin, tu cherches le jeu aussi là-dedans, le jeu au sens exploration des libertés.
Oui, absolument, tout à fait. Et ça, c'est très important. Ben, c'est, je pense, que c'est capital et c'est lié au décès de ma mère. Et à l'héritage qu'elle m'a donné. C'est-à-dire que lorsque ma mère décède quand je suis tout petit, j'hérite également de la grande baronnie dans laquelle tous ces podcasts sont enregistrés, et qui nous permet aussi de faire vivre la communauté de la cellule, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la sensation de ne pas le mériter. Pourquoi ? Parce que en face du décès de ma mère, je trouve la famille de mon père qui, elle, est plutôt ouvrière, modeste, famille, classe moyenne, on va dire, limite, pas du tout supérieure, quoi, classe moyenne limite. Et donc, du coup, je culpabilise un petit peu d'être moi, le petit jeune, finalement, millionnaire, on va dire, alors que les gens avec qui je vis, eux, sont des gens qui vont en chier. Moi, je sais déjà de base dans la vie que je vais pas en chier. Et je suis révolté par ça. Et je peux pas, en même temps, je vais pas donner ce que j'ai, parce que ce serait insultant pour eux. Imagine quelqu'un qui est millionnaire, qui donnerait tout, par exemple, à des bonnes sœurs, ou je sais pas quoi, c'est révoltant, parce que, tiens, mais lui, il avait tout, et il a tout donné. Donc, en fait, tu peux trouver l'amour d'aucune manière. Ouais. Parce qu'à la fois, t'es cet immonde bourgeois qui a tout hérité et donc qui ne mérite pas ce qu'il a. Et en même temps, si tu donnes tout et si tu deviens comme eux, ils verront ça comme une humiliation. Mmh. Parce que ça veut dire, donc du coup, c'est très, très, très une compliqué de se situer. Et ce que j'ai pris comme parti, c'est je me suis dit, bah, écoute, j'ai hérité de cette baraque et je vais la mériter. Je deviendrai digne de cet argent. Donc, tu vois.
Et c'est peut-être d'autant plus dur que, comment dire, mériter au regard d'une morte. Enfin,
exactement. Alors ça, j'allais y venir.
C'est pas, tu vois, autant. Ça, moi, mes parents, moi, j'ai la chance, mes parents sont vivants et
ils peuvent te dire.
Et mes parents, ils peuvent
te dire que c'est bien.
Voilà, qu'ils trouvent que c'est bien.
Alors que ma mère est ce que j'imagine qu'elle est. Et voilà. Donc, du coup, chaque fois que je crois atteindre l'idéal que je me suis fixé, le but que je me suis fixé, par exemple devenir un auteur influent dans le monde du JDR, ça y est, c'est fait. Enfin, je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, ouais, je peux dire que c'est bon. Et bah, tu vois, d'un coup, ma mère me dit, oui, mais est-ce que t'as encore, tu vois, quelque part, le regard de ma mère, voilà, ma mère intérieure, c'est ça, me dit, est-ce que tu la mérites encore? Non, parce que, etc. Et donc, je dois toujours me dépasser, en fait. Et au final, je ne mériterai jamais ce que j'ai, quelque part. Et tu vois, tu me dis souvent, Fabien, ouais, mais quelle formidable énergie, Romaric, tu as pour t'investir dans tous ces projets, etc.
Moi, j'ai pas autant d'énergie pour le coup.
Mais oui, mais il vient de là. D'accord. Il vient de ce regard que je cherche, de cet amour impossible que je cherche à gagner d'une mère décédée, etc. J'en suis convaincu. Et aujourd'hui, j'ai pu mettre des mots dessus parce que suite aux discussions avec Fly, avec des amis, à essayer de mettre des mots là-dessus pour éviter que ça devienne un problème. Mais voilà, c'est ça le point essentiel.
Ben, merci beaucoup de ta...
Bah non mais c'est ça me fait plaisir d'en parler, enfin c'est
de ta franchise et de ta sincérité, pour le coup c'est touchant.
Et voilà, et puis le regard de mon père est très important. Mon père, c'est quelqu'un d'assez pragmatique, qui est beaucoup dans l'autorité,
il me fait peur, ton papa.
Oui, mais en fait alors attends, parce que en fait, et c'est là que ça devient très intéressant, les relations parentales, c'est que c'est quelqu'un de très pragmatique, etc. Quand je lui ai dit que j'allais faire du jeu de rôle, enfin franchement, la première fois, il m'a regardé avec des yeux comme ça, limite il avait peur en plus que je rentre dans une secte, parce que je m'intéressais beaucoup aux civilisations anciennes, de ce genre de choses. Donc tu vois, il a, au début, la première fois que j'ai acheté des cartes Magic, la première réaction de mon père, ça a été « Oh putain, merde, c'en est un, quoi. C'est un rôliste, un gars qui va... » Bon, voilà. Mais au fur et à mesure, j'ai pu lui montrer que c'était intéressant aussi d'être créatif, d'être, etc.
Il faut savoir aussi, là aussi je me permets de révéler un truc à ton sujet, il faut savoir que les premières éditions, enfin la deuxième édition de Sens, celle qui était dans les petits trucs blancs en format A6,
oui,
la couverture, c'est des
tableaux de ma mère.
Voilà.
Absolument. Et alors, je les ai enlevés, pourquoi? Parce que justement, beaucoup de personnes, notamment des psychologues comme David Gauss, mais aussi Twent, donc qui sont des premières personnes qui se sont intéressées à Sens à Rennes, ce sont tous des psychologues du Trident, une association de Rennes. Et donc, du coup, ils ont vu là-dedans des choses qu'ils surinterprétaient un petit peu par rapport à Sens. Donc, du coup, j'ai retiré ces couvertures parce qu'elles étaient, et puis Bernadette, qui est donc la compagne de mon père, m'a dit, est-ce que tu crois vraiment que c'est faire, dans le sens où, est-ce que tu crois que ta mère accepterait, tu vois, tu lui as pas demandé son autorisation quelque part, est-ce que c'est bien d'avoir mis, et là je me suis dit, ah ouais non, elle a raison, je peux pas utiliser l'œuvre de ma mère comme illustration de, c'est glauque, enfin Bernadette m'a dit c'est glauque, ça donne pas une très très bonne image de ton travail, parce que malgré tout, tu restes quand même toi-même, tu vois ce que je veux dire, t'es pas non plus, alors là aujourd'hui je fais un petit peu mon coming out de toutes ces questions, mais au final j'ai beaucoup de, la preuve c'est que j'en parle bien, enfin je pense, c'est, j'ai beaucoup de recul sur ces choses-là et je sais aussi faire avec et les contredire quand c'est nécessaire. Et là justement Bernadette me disait attention, là tu fais le pas de la soumission et non plus de la discussion, tu vois ce que je veux dire, donc c'était très 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 important cette réflexion.
C'est fort ce que tu dis parce que bon, ça je pense que dès qu'on fait un travail un peu d'introspection, nécessairement, on se rend compte qu'on a toujours une relation difficile, complexe à ses parents. Et c'est normal, dans le sens où, voilà, tu passes la majorité de ta vie, en tout cas de ta vie, quand t'es gamin, quand tu te construis, quand t'es dépendant, à aimer des gens dont tu as besoin de te distancer. Donc oui. Nécessairement, c'est une relation qui est complexe, névrosante, où on s'aime et on se déteste.
Sachant
et...
que bien sûr, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la psychanalyse, la névrose n'est pas un problème. C'est pas une maladie.
Comme dirait mon prof de philo, et je m'excuse, nous sommes tous, et je m'excuse auprès des quelques psychotiques qui pourraient y avoir parmi les auditeurs, nous sommes tous des névrosés.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est...
Et ce que vous racontez, je vais certainement faire un très mauvais parallèle, mais voilà. Je pense que chez les écrivains, il y a une parenté du point de vue du livre qui est beaucoup plus présente quand on fait du jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, quand on le crée, enfin un livre normal, quand on le crée, on sait que on va le lire, le livre ne va pas changer.
Ouais.
Tandis que le jeu de rôle, un peu comme un enfant, quand tu le crées, le jeu de rôle va devoir devenir indépendant. Il va falloir que tu acceptes que d'autres personnes que toi vont le maîtriser.
Indépendant, non pas au sens commercial. Voilà.
Le jeu de rôle doit devenir indépendant. Moi, j'ai entendu que ça.
Autonome, mais indépendant aussi. Parce que tu sais que des gens vont devoir le masteriser, qui ne le feront pas forcément comme toi, qui vont l'interpréter, que des gens vont pouvoir même changer certaines choses qui vont se passer dans l'histoire. Et qu'à partir de là, quand ce que tu crées doit apprendre à vivre librement, en fait. C'est ce qu'on avait eu cette discussion avec Mathieu Gaborit,
ouais.
Parce que ses livres étaient pas mal changés, qu'il y a eu des choses qui ont été faites notamment sur Abîme, qui dépassent clairement son œuvre, et je lui avais demandé si ça le faisait chier ou pas. Il m'avait dit non, le fait qu'une œuvre soit réussie fait que les personnes autour se l'interprètent et se l'approprient, et au final l'œuvre apprend à vivre sans toi.
J'irai plus loin que toi, moi.
Il faut un sacré courage. Mais bon, ça, je pense que c'est vrai qu'on soit auteur de jeux de rôle ou auteur de livres. Imagine Lovecraft revient aujourd'hui. Ok, le premier truc qu'il dirait, c'est putain des avions, et des ordinateurs. Mais ensuite, imagine Lovecraft devant une peluche Cthulhu, quoi. Enfin.
Ouais.
Son œuvre lui appartient plus depuis longtemps.
Exactement. Moi, j'irais plus loin que toi, Fly, dans cette analyse. C'est que pour moi, en fait. Les auteurs ont tous plus ou moins ce qu'on appelle le syndrome de Sherlock Holmes. Enfin, en tout cas, les auteurs qui marchent, c'est-à-dire les auteurs qu'on entend finalement, parce qu'il y a des tas d'auteurs qu'on n'entend pas, parce que soit ils sont pas suffisamment connus, soit etc. Et la plupart des auteurs qu'on commence à entendre, en fait, sont souvent des auteurs qui commencent déjà à être dépassés par leurs personnages. Moi, par exemple, quand j'écris Sens, je sais que la plupart des personnages m'échappent déjà un petit peu. C'est-à-dire que je me nourris beaucoup aussi des discussions qu'il y a sur les forums, des discussions qu'il y a sur le podcast, et etc. Et parfois, je me dis, putain, Classy, je lui ferais bien faire ça, mais par rapport à tout ce qui a déjà été dit sur lui, et pas toujours par moi, eh ben, ce serait plus cohérent de lui faire ça. Et donc, du coup, tu as une sensation en tant qu'auteur que tes personnages vivent par eux-mêmes, qu'ils ont une indépendance eux aussi. Et donc, du coup, ça rend t'as une relation complexe avec... mais ça reste ton œuvre. Donc, quelque part... c'est bizarre. C'est bizarre. Je sais pas bien en parler de ça.
Mais je trouve que ça va beaucoup plus loin dans le jeu de rôle, parce que malgré tout ce que t'écris, ce n'est pas toi qui va faire vivre ces personnages. Il y a encore une autre personne qui va les interpréter, qui va mettre ce que lui veut dedans.
Ton œuvre.
Et lui, il va devoir, quand il va créer des scénarios et tout, toutes les choses qui l'ont touché dans sa vie, il va aussi les mettre dans ses scénarios.
Tout à fait.
Ton œuvre véritable comme auteur de jeu de rôle, ce n'est pas un livre ou un texte sur lequel il y a une certaine objectivité. Alors évidemment, je pense que les gens qui font de la littérature, de la recherche en littérature sautent au plafond quand ils m'entendent ça, mais ce que je veux dire, c'est que
Natacha va laisser des commentaires.
Ce que je veux dire, c'est que la partie de jeu de rôle, enfin, ce que nous on crée, c'est une partie de jeu de rôle. Ça, j'ai assez répété que pour moi, c'était jamais les livres soi-même, mais les parties de jeu de rôle. Mmh. Et la partie de jeu de rôle, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait ou comment dire, ça n'est qu'un jeu, justement. Ouais. Un jeu au sens, à nouveau mécanique. Mmh. C'est des libertés qu'on donne aux gens. Après, comment les gens se saisissent de ces libertés, ben ça.
On peut pas.
Mais revenons un peu
à la parentalité.
À la parentalité, parce que là, moi, je sens que on va refaire le podcast sur le propos.
Mais là, en fait, jusqu'à maintenant, je disais que le regard de mes parents comptait beaucoup. Alors, j'ai le regard de quelqu'un de terre à terre et d'assez pragmatique, qui est mon père, et le regard de quelqu'un qui est décédé, donc idéalisé, qui est ma mère. Et alors, ma mère, c'est celle qui m'a donné tout ce goût pour la métaphysique, etc. Parce qu'elle a eu le cancer, elle a eu 2 ans et demi pour réfléchir aux questions de mort. ouais. D'accord, de la mort, de la fin. Elle m'a expliqué qu'elle allait mourir. Donc elle a dû m'expliquer à moi, alors que je suis même pas adolescent, hein, je suis en sixième, cinquième. Elle doit m'expliquer qu'elle va mourir et donc que tôt ou tard elle sera plus là, etc. Donc elle utilise la religion. Elle utilise Star Wars parce que ma mère était une fan inconditionnelle de Star Wars.
Je savais pas ça.
Et elle utilise tout ça pour m'expliquer en fait qu'elle va aller à la Force ou qu'elle va aller au paradis ou je ne sais quoi et que de là. Elle gardera un œil sur moi finalement. Donc du coup, tu vois, il y a la métaphysique.
J'aimerais
métaphysique.
Bien la voir apparaître en Force de temps en temps. En
Romarie.
La...
la barreau, tu dois rencontrer Christophe.
Va dans le système de la Suisse.
Le système suisse. Non mais et donc du coup, il y a toutes ces relations à la métaphysique évidemment viennent de là. Donc ça, voilà, c'est fait. Maintenant, il y a mon père. Qui lui symbolise plutôt le pragmatisme, etc. Et je suis vraiment très heureux d'avoir eu les deux côtés, en fait. Parce que c'est vraiment indispensable d'avoir à la fois les pieds sur terre et en même temps de pouvoir réfléchir. Parce que c'est depuis la terre qu'il faut réfléchir.
C'est Phil Longfinger, d'ailleurs, de ce côté-là.
Tout à fait. D'ailleurs, Phil Longfinger, là, je vais faire une révélation, est né le 24 avril. Le 24 avril est la date d'anniversaire de mon père. Ah. Et Solipsis est né le 2 mars. Et le 2 mars, c'est la date d'anniversaire de ma grand-mère. Donc, voilà. Et le 19 juillet, qui est la date de naissance de Miphos Kadria, est la date de naissance de ma mère.
Ah, c'est fou. Ça.
Donc, il y a, voilà, c'est des petites.
Et Wilfried?
Wilfried est né le 21 mai.
Ah,
c'est ta date de naissance.
Ah, je ne m'en rappelle plus.
D'accord. Toutes les runes de sens ont une date de naissance.
Il va falloir que tu crées une nouvelle rune pour Soren, comme ça tu te rappelleras de son anniversaire.
Eh bien, figure-toi que je peux le faire, parce que Azilis n'a pas, par exemple, de date de naissance. Mais ça me ferait
Un peu chier.
Oula, non. Donc, du coup, ce serait glauque.
Donc, du coup, voilà, exactement.
J'espère que tu vas devenir rien.
Cela dit, pour
quant à Classis, je ne crois pas qu'il ait non plus de date de naissance officielle.
Si tu veux en faire un grand créateur, ça ne me dérange pas.
Moi, je donne un petit peu mes propres analyses sur sens, mais à mon avis, Azilis c'est la rune de création et Classis la rune de néant. Mais...
Alors ça, on pourra en rediscuter.
On pourra en discuter, mais
futur podcast.
Voilà,
c'est ça. C'est l'objet d'un podcast en tout entier, je pense.
D'accord.
Et donc, juste pour finir là, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai montré que j'étais vraiment soumis au regard de mes parents, mais il faut dire aussi que mon regard sur eux a beaucoup apporté à mon père. Je dis pas à ma mère, parce que malheureusement, je ne peux plus rien lui apporter, mais par contre, quoique, peut-être par le biais de la maison, etc., et de ce que j'ai fait de la baronnie, quelque part, parce que la baronnie, c'est ma mère. Enfin, je veux dire, c'était sa maison, elle était construite à son image, etc. Donc, du coup, moi, j'ai changé, je l'ai construite aussi à mon image. J'ai tout un rapport comme ça à la vieille pierre et au mur qui est... C'est dingo, hein. Quand on analyse sa vie comme ça, on se rend compte de choses inquiétantes même.
Mais
à ce sujet.
C'est pour ça que la psychanalyse c'est intéressant, quelles que soient les objections épistémologiques qu'on puisse lui faire, parce qu'il y a quand même des choses.
Et tout ça, il faut dire aussi que je l'ai découvert dans la souffrance. C'est-à-dire que là, j'en discute comme ça, genre un peu détaché, mais Flavie m'a vu pleurer en lisant des textes de ma mère qui parlaient de la manière dont je devrais être plus tard. Par exemple, dans le livre de naissance, ma mère avait écrit des textes sur « j'espère que tu nous aimeras, que tu deviendras comme ci, comme ça, que tu resteras toujours… » Et en fait, on s'est aperçu avec Flavie que c'était exactement… Ça correspond exactement à ce que j'étais devenu, tu vois, des trucs comme ça. Et ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré parce que finalement, je me dis, enfin, tu vois, c'est des tas de trucs comme ça. Tout ce que je dis là, je le dis avec beaucoup de détachement aujourd'hui parce que j'ai réussi à mettre des mots dessus, parce que j'ai créé des œuvres autour. Mais la première fois qu'on m'en a parlé, ça m'a fait du mal. Enfin, ça m'a fait beaucoup de mal. Donc, ça se précise aussi. Et juste pour finir, là, je parle de regard oppressant, mais je vous tiens à dire que ma vision de mes parents les a aussi beaucoup changés. Mon père, par exemple, donc déjà, ça a changé la vision de ma mère. J'ai pris du recul sur elle par rapport à mon histoire et son, tu vois, la vision que j'ai de ma mère, mais ça a aussi changé la vision que j'ai de mon père, parce que j'imaginais comme un pragmatique et tout, mais en fait, c'est pas du tout. Par exemple, mon père, c'est un grand guitariste. Il fait beaucoup de guitare. Et de me voir comme ça, je pense que je lui ai apporté ça, de me voir comme ça réaliser des choses dans le domaine créatif, ça lui a donné envie aussi de le faire. Et la preuve, c'est qu'un jour, il m'a dit, tu verras, quand j'irai en retraite, je ferai quelque chose d'inattendu pour toi. Je ferai quelque chose qui va te surprendre. Et là, aujourd'hui, j'apprends que, alors il est pas encore en retraite, mais il prépare, et j'apprends qu'il fait partie d'un groupe de musique qui s'appelle Megan, qui est un groupe de musique irlandais, et il commence à s'y investir.
Megan Man.
J'avais jamais fait le rapprochement. Ah, c'est bon, ça. Ne ridiculisez pas le groupe de musique de mon père ou je vous éclate la gueule. Non, mais et donc du coup, finalement, il va finalement maintenant s'investir dans un domaine créatif et finalement il va tuer le fils en quelque part. Moi j'ai tué le père, lui il tue le fils.
Oui, parce que
en faisant quelque chose qui me surprend et en devenant lui-même
c'est
créatif.
C'est bien que tu parles de tuer le fils parce que c'était un peu le truc sur lequel moi j'avais envie d'embrayer sur D'accord. la parentalité.
Mais c'est vrai parce qu'on dit toujours oui, les parents nous soumettent, mais les enfants apprennent énormément à leurs parents, si les parents sont malins.
Oui, alors, excuse-moi, juste Flavie, pour placer un truc après. Que je voulais juste préciser, c'est que, enfin, comme tu te décris là, tu te donnes l'impression d'être très, comment dire, effectivement soumis ou portant sur ton dos l'héritage de tes parents, tel aîné portant en quise de trois Roms. C'est une figure psychanalytique, donc un type qui porte son père sur des kilomètres. Comme Christopher Tolkien porte son père d'ailleurs, parce que c'est un type qui est, bref, complètement. Ouais. Mais pour le coup, toi, tu joues aussi avec ça, tu vois. Évidemment, c'est quelque chose que tu ne peux pas. Comme tout être humain, tu ne peux pas ne pas avoir de rapport avec tes parents, même si tu avais été orphelin, puisque même les orphelins ont un rapport nécessairement problématique avec leurs parents. Ouais. Mais en même temps. Tu en joues, tu vois. Toi, ta liberté, c'était de devenir auteur de jeux de rôle, de reprendre ce travail et de l'amener en jeu de rôle soi-même. Enfin, il y a tout un. T'as exploré ta liberté, quoi. C'est-à-dire, t'es pas soumis à ton héritage psychanalytique, si j'ose dire.
Non. Mais justement, parce que j'y ai réfléchi, parce que j'ai écrit dessus, parce qu'en fait, dans la psychanalyse, l'idée, c'est de se libérer comment ? Par la parole, par la libre association.
Ouais.
Sens, en soi, c'était aussi une manière pour moi de me libérer. D'ailleurs, je le dis souvent dans les podcasts, je ne me souviens jamais de ce que j'écris dans mes bouquins. Je suis souvent obligé d'aller chercher dans mes livres mes propres références pour répondre à des questions sur le forum. Parce que je ne me souviens plus. Donc ça veut bien dire que quelque part, dans Sens, j'exorcise un démon. Si voilà, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Donc,
excuse-moi, voilà. Flavie.
Si vous voulez.
Oui, alors
sur le fait qu'on apporte des choses à nos parents aussi.
Ouais, en fait, je pense que quand on dit que on élève les enfants pour qu'ils deviennent autonomes, c'est aussi que les parents à un moment, à force d'être parents, ne le sont plus. Et je pense que quand je parlais de tuer le fils tout à l'heure, les parents à un moment doivent apprendre à devenir autre chose que des parents et regagner la liberté. Je pense que dans ce sens, il y a aussi cette problématique là, à savoir que Finn Longfinger et Solipsis, à un moment ou à un autre, reprennent cette liberté après avoir retrouvé Wilfried et doivent pouvoir accepter qu'en gros, leurs chemins vont se séparer de leur fils. Mmh.
Et au final, ils
en meurent. Mais du coup, il faut quand même l'accepter au bout d'un moment que les chemins des enfants et des parents vont forcément à un moment ou à un autre diverger. Quoi.
Alors là, j'ai apporté mon propre... Quand j'étais jeune, mes copains m'appelaient le métabaron. Parce que j'étais complètement fou de la BD des Métabarons. Et avant, j'avais été complètement fou de la BD de Lincal, de Jodorowsky et Moebius. Tu vois, par exemple, Moebius, c'était un type aussi qui m'a beaucoup touché. Et en fait, moi, ma psychanalyse intellectuelle, elle commence avec Lincal, c'est certain. Toute la société de Lincal, c'est la société de Monostatos. Et donc pour reprendre un peu mes propres références pop, dans Métabaron, quand ils font un enfant, ils savent que à 16 ans, il y a une tradition qui fait que l'enfant doit tuer son père pour prouver qu'il est meilleur que lui.
Et aussi le fait qu'ils doivent être mutilés normalement.
Oui, alors c'est vrai. Ouais, alors sur les angoisses de castration, ouais. tu peux d'un point de vue psychanalytique.
Celui qui se fait mutiler la tête, c'est quand même le pire, quoi.
C'est clair.
Enfin,
Jodorowsky, c'est un bon ouf. Hein. Quand tu lis les
Métabarons, c'est quand même un truc de malade.
C'est un truc de malade avec de l'inceste, avec des morts. Enfin bon, Jodorowsky, c'est un bon ouf, c'est clair.
Moi, à l'époque où je les ai lus, j'avais quand même trouvé ça extrêmement choquant. Enfin.
Moi aussi, mais choquant. Enfin, en tout cas.
Choquant, très intéressant parce que moi, ça m'a montré.
Je suis déçu en bien, comme dirait.
Ouais, non, mais tu vois, ça m'a. Christophe. À l'époque, moi, j'avais jamais rien lu comme ça, donc ça m'a montré qu'on pouvait vraiment y aller à fond dans une histoire. Et puis voilà, mais c'est vrai que voilà, Jodorowsky.
Un des secrets de la créativité, c'est de savoir se lâcher, et sur tous les domaines. Sur tous les domaines. Sur les domaines qui posent le plus de problèmes, comme sur les domaines qui nous font le plus triper. Moi, par exemple, je le nie pas, je suis fan de Saint Seiya. L'autre jour, on a regardé encore Asgard avec Fly, on s'est refait les Asgard. Tu vois, on a quel âge là ? On a 30 ans, quoi. Et pour moi, j'ai trippé comme un cochon de voir Asgard. J'avais les larmes aux yeux lors de la révélation de certaines histoires.
Enfin, ça, c'est aussi parce qu'on est... On est tous, et le podcast de la cellule l'est aussi, des enfants de la postmodernité, dans le sens où on va se sentir suffisamment libre pour associer des choses dites nobles, en tout cas que la modernité considère nobles, avec des choses que la modernité considère comme ignobles, au sens de non nobles, tu vois. Ouais, associer philosophie, philosophie, et jeu de rôle, ou Megaman, ou Star Wars. Tu vois, moi, assumer de dire, ben oui, je suis héritier de Nietzsche, mais je suis aussi héritier des métabarons. Ouais. C'est de la postmodernité.
Mais tu vois,
on fera peut-être un podcast sur la postmodernité.
Ah ouais, ça serait trop bien. Cool. Moi, j'aimerais vraiment. Le truc, c'est que là où je veux en venir, c'est que il faut savoir se dire, bon bah, par exemple, pour Sens Cosmo, je suis vraiment parti dans l'exploration du canon saint-séiesque. C'est-à-dire avec l'idée que bah voilà les bugs voilà ils portent des armures, ils fritent contre des gros mecs de foudre, ils vont avoir du rayonnement, hein, franchement rayonnement cosmos, bonnet blanc blanc bonnet, voilà il y a quelque chose comme ça quoi, et donc il faut que j'assume,
je dois atteindre le septième rayonnement.
Je suis fan de Saint Seiya et il doit bien y avoir une raison, tu vois ce que je veux dire, il doit bien y avoir une raison pour ça, et donc du coup il faut pas que je me dise parce que ce serait ridicule d'être fan de Saint Seiya, ou parce que ce serait ridicule de retrouver une comparaison avec les Chevaliers Zodiac dans Sens Cosmo, de pas le faire. Parce que finalement, c'est mon univers, c'est comme ça que je suis, et il faut que j'assume le fait d'être fan de Saint Seiya, et dans Sens Cosmo, je l'assumerai jusqu'au bout.
De toute façon, être adulte, et à mon avis, le moment où on peut vraiment devenir parent, vraiment, ou sans
retrouver
que ça pose
le
soucis,
sérieux que l'on mettait
c'est,
dans ses enfants.
Oui, et c'est le moment où on s'assume complètement. Parce que si on s'assume pas au moment où on a un enfant, on va l'élever tel qu'on pense que les gens ont envie qu'on l'élève, plutôt que l'élever tel qu'on aurait envie
ça,
de l'élever.
Ça, c'est une problématique de la parentalité aussi.
Ouais.
La parentalité de ses idées et d'assumer de pas déformer les choses pour avoir l'air sérieux.
Puis du coup,
faire
ça,
ce qu'on a envie dans les tripes.
À l'enfant, on lui montre aussi une vision de ce que c'est être adulte. Est-ce qu'être adulte, c'est se conformer à ce que les autres font et à ce que les gens attendent de toi, ou est-ce que c'est assumer ce que tu es en étant naturel? Et ça, c'est aussi l'enfant, il va avoir un exemple devant les yeux, quoi.
Carrément.
Je connais une
péter le cosmos.
Je connais une psychanalyste qui disait que accepter d'avoir un enfant, c'est aussi accepter d'une certaine manière de mourir, c'est-à-dire de créer quelque chose qui te dépassera.
Ma demi-sœur m'a envoyé direct après la naissance de Soren une excellente interview sur la parentalité d'Alexandre Astier. Je pense qu'en tapant parents Alexandre Astier enfant, vous pouvez y retrouver cette interview. J'en ai pas les références précises et je serais bien incapable de la retrouver. Enfin peut-être qu'en tapant dans Google. Mais où il disait, de toute façon, faut pas chercher à comprendre. Quand on fait des enfants, on le fait pour devenir un vieux con. En gros quoi. On sera tous des vieux cons. Donc ça sert à rien de chercher à rester objet d'admiration quoi. Le but c'est de devenir un vieux con. Et tant mieux qu'ils inventent leurs propres valeurs, qu'ils soient créatifs.
Pardon Fly, excuse-moi, j'allais te non vas-y. Ok. Pour relancer, parce que jusque-là on a parlé de l'héritage de tes parents, on est en train de glisser vers le fait de devenir père et mère. J'ai trouvé, enfin pour t'avoir suivi sur ce chemin-là. J'ai trouvé particulier le moment où donc Flavie était enceinte durant la grossesse de Soren, et c'était le moment où tu essayais toi d'accoucher de Néant.
Ouais. C'est vrai.
Et je me souviens, et je sais que cette période de cette période là entre le moment où vous avez su que vous alliez avoir un enfant et le moment où Soren est né a été une période où t'as été très difficile. Ça a été une période où t'étais vraiment sur les nerfs, où il y avait quelque chose qui se passait en toi que je sentais, que j'ai senti très très fort.
T'as été très créatif aussi, hein. T'as créé le Val en même pas trois mois, alors que.
Je me souviens t'avoir appelé au téléphone quelques jours avant l'accouchement pour dire ah ça va, comment ça se passe. Et t'étais sur les dents, mais alors un truc de ouf. Une semaine après, t'étais tout peinard, tout allait bien. Alors, j'entends bien aussi que je suis pas papa, mais j'entends bien aussi que la première fois qu'on a un bébé, c'est une.
Je peux t'expliquer ça en deux secondes.
Ça peut être une super aventure et que ça doit être vachement stressant. Mais à mon avis, il y a quelque chose aussi à un niveau.
À deux secondes, j'avais peur de pas l'aimer. Voilà.
Oh putain, c'est ouf ça.
J'avais peur de ne pas l'aimer. Et parce que tout le monde disait, oui, tu verras ton fils, quand tu le verras la première fois, tu l'aimeras automatiquement, ce sera machin truc, et ce sera direct et tout machin. Mais moi, j'avais peur de pas l'aimer. C'était ça. Et donc, ça me faisait monstre stressé. Vraiment.
C'est ouf.
Et quand
il faut voir aussi qu'il y a une pression grosse, sociale. Non, puis il y a vraiment quelque chose d'injuste dans la gestation d'un enfant. Ah c'est-à-dire ça, que la femme, moi, j'étais déjà en rapport avec lui. C'est-à-dire que moi, je savais déjà quel était son caractère parce que je savais ce qui se passait.
Elle était en train de préparer tout, quoi. Elle préparait la chambre, elle préparait ses vêtements. Et moi, j'étais
à fond.
J'étais à la masse.
Je parlais parce que du coup, je le sentais vibrer en moi. Je le sentais bouger. Je sentais quand il aimait pas certaines choses. Il y a certaines musiques, j'ai pas pu les écouter pendant toute ma grossesse parce que du coup, je les aimais pas. Du coup, il me défonçait le
périnée.
C'est quoi ce métal de merde, maman? Tiens, je te cogne.
Souviens-toi du podcast avec Pika Toulouse sur le sludgecore.
Vache, il
nous passe un truc sur
l'estomac.
C'était d'ailleurs, on fait la réflexion au cours du podcast.
On a été obligé d'arrêter la musique parce qu'il m'a défoncé l'estomac. C'est-à-dire que j'ai eu des coups, mais j'ai cru que j'allais vomir. Quoi.
Donc elle sent déjà le truc, et puis toi, t'es complètement à la ramasse. Alors, ça, c'est un truc pour tous les.
C'est un podcast qui est dédié à un auditeur qui ne nous écoutera que dans 15 ou 20 ans, qui pour le moment est en train de téter sa tétine à fond.
Non.
Mais.
Non, mais je fais pas.
Oui, mais bon, c'est difficile, je pense, pour les pères, parce que du coup, eux, ils sont à l'écart. C'est-à-dire que pendant 9 mois, la mère construit une relation privilégiée à son enfant. Son enfant va la reconnaître plus facilement que le père, en plus. Et en fait, le père, du coup, lui, tout ce qu'il a pour construire ça, c'est le gros ventre de sa femme et voir de temps en temps que ça bouge dedans. Et je pense que c'est difficile.
C'est ultra stressant.
Bon, et ok.
C'est tout, hein.
D'accord.
Il faut pas chercher midi à quoi.
Mais à mon avis, il y a aussi quelque chose de.
il veut m'analyser.
Ouais, je veux t'analyser parce que.
Vas-y.
J'avais le sentiment que ça. T'avais une. Bon, sans ce néant aussi, il faut dire que c'était.
Oh putain,
c'était chier. Difficile parce que t'as mis 3 ans, que c'était complexe.
Il a fallu que je réécrise le bouquin.
C'était ta propre crise d'adolescence de créateur.
Et tu sais que cette nuit, j'ai encore rêvé que Sans ce néant était mal écrit. Je fais des cauchemars récurrents sur Sens Néant.
C'est fou, ça.
Je rêve que le jeu est mal écrit, qu'en le relisant, je l'assume plus et tout.
Moi, j'ai rêvé que ma vie était un point and click, mais. Faut que les auditeurs sachent que je me souviens très très bien de mes rêves parce que j'ai fait des travaux sur les rêves, donc je me souviens très 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 bien de mes.
Non, mais
Sens
Néant, ça m'a vraiment. D'accord. Ça m'a vraiment explosé le crâne.
Ouais. Okay.
Mais au final, je m'en suis bien sorti et je suis bien content. Au final, le résultat me convient parfaitement.
Bah, pour Soren aussi, semble-t-il.
Ah, pour Soren également. Mais j'ai du mal à faire le parallèle entre Sens Néant et Soren, parce que je trouve que Sens Néant, c'est arrivé. J'ai pas l'impression qu'il y ait un parallèle entre Sens Néant et Soren, tu vois, parce que j'ai l'impression que Sens Néant est arrivé avant Soren.
Oui, puis quand t'as commencé à l'écrire, on n'avait pas du tout envie d'avoir un enfant, alors que le Val.
C'est plutôt le Val.
C'est à mon 4e mois, au moment où moi je commence à le sentir.
C'est là que j'ai.
Rome est extrêmement frustré parce que lui se sent à l'écart de tout. Ouais. Et à ce moment-là, je le vois se jeter à corps perdu hein, dans un projet. Genre,
c'était
je vais créer
un
jeu.
Une nouvelle voiture.
Mais je vais créer un jeu de cartes auquel tout le monde pourra jouer, auquel je pourrais jouer avec mon gamin. Et où je pourrais jouer avec ma grand-mère, avec mes parents. Ouais. Et je le vois travailler nuit et jour sur ce projet au moment où moi je commence à sentir.
Tu travailles nuit et jour sur Soren.
Je vois Rome créer vraiment un jeu de rôle, mais c'était vraiment une gestation en même temps que moi. Moi, c'est vraiment l'impression
cartes,
que j'ai eue. Ouais.
Jeu de cartes. Le Val n'est pas un jeu de rôle.
Non, j'ai dit une gestation.
Ah d'accord, je croyais que tu avais dit créer un jeu de rôle.
Non, c'est vraiment, vraiment la gestation de Romaric à ce moment-là, c'est ça. Il a eu besoin de créer quelque chose. Ouais, il a eu besoin de créer quelque chose. C'est quand l'homme mange énormément et prend du poids en même temps que la femme par mimétisme.
Moi, j'ai.
Romaric n'a pas grossi, il a augmenté sa surface de câlin.
Tout à fait, absolument. Merci.
Bon, je pense que.
On a bien fait le tour.
On a bien fait le tour. Merci beaucoup de votre sincérité, de votre franchise à tous les deux.
Ouais.
C'était un podcast.
J'espère qu'on n'a pas tort d'être franc, que ça blessera personne, même plus tard, que ça blessera pas Soren, qu'on ait parlé.
Je pense
ça.
Pas. Enfin, là, c'est difficile.
Je pense aussi à mes parents. Je sais qu'ils aiment pas trop. Mais bon, là, il y a pas leur nom. Il y a pas. Voilà. J'ai pas parlé de. Donc, j'ai pas donné d'informations.
J'ai l'impression que t'en as parlé quand même avec.
Oui, mais c'est pas une question de ça, c'est juste une question qu'ils ont envie de rester en dehors de mes affaires quelque
part. Je comprends.
Parce que ils savent pas où ça va me mener. C'est drôle.
Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était même pour moi en fait, j'ai appris plein de trucs et j'ai compris aussi plein de trucs dans ce podcast.
Merci Fabien d'avoir animé ce podcast.
Mais avec plaisir.
Me reposer un petit peu, c'est pas mal. T'en animeras d'autres. Hein.
Ah oui, bien sûr.
Promis. Tu vas faire des one shots notamment.
Oui, là il y a des one shots qui vont.
Ouais. Ça va être difficile parce que tu vas être à la fois le meneur du podcast et le meneur du jeu.
Ah, on va plus entendre que moi, quoi. Je vais faire des podcasts tout seul avec des gens qui m'écouteront, qui me renverront, qui me serviront le.
Ah oh oui, Fabien.
Oui, oui, bon.
Ce que tu dis est tellement vrai, Socrate.
Bon, allez.
Allez, à bientôt.
Salut.
À la prochaine. Ciao. Salut.